J'avais envie de discuter avec vous parce que c'est la période. Vous savez, décembre est la période de fête, il paraît. Et quand on parle de fête, souvent, on parle beaucoup de cadeaux. Alors pour les enfants, le 6 décembre, il y a Saint-Nicolas. Et puis pour les grands et les moins grands, il y a aussi Noël. Et je ne sais pas comment vous êtes, vous, quand vous étiez enfant et comment vous êtes à Noël, mais en tout cas, à la maison, moi, j'ai 3 enfants. Et les plus petits d'entre nous, je ne sais pas si ça vous arrive encore de le faire, c'est très important ces moments de fête. Et vous savez qu'ils s'y préparent très à l'avance. Et certains même, pour se préparer, les tout petits font une petite liste de cadeaux. Vous connaissez, je sais pas, qui a déjà fait une liste de cadeaux ici? Parce qu'il y a les petits qui font, mais il y a aussi les grands parfois. Moi, je vous avoue que j'ai fait une liste, moi. Je suis plus si petit que ça, mais j'ai fait une liste et j'ai eu beaucoup de chance. À Noël, j'ai eu droit à ce que j'avais sur ma liste. J'avais demandé une trottinette pour aller au travail. Et j'ai reçu la trottinette et j'étais content. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui sont gâtés ou qui ont été gâtés quand ils étaient petits? La liste. Qui a déjà reçu des choses qui étaient sur sa liste? Il y en a quand même, hein? Et bon, alors, je vois pas trop d'enfants, on va pas essayer de spoilier. Et pourquoi pourquoi les parents offrent ce qui est sur la liste? Pourquoi on est gâté parfois? Est-ce que c'est parce qu'on a été sage? Ce qui paraît que les enfants, vous savez, à la Saint-Nicolas, c'est soit Saint-Nicolas qui passe, ou soit c'est le père fêtard. Alors est-ce qu'on reçoit les cadeaux de notre liste parce qu'on est gâté? C'est pour ça? Qui pense que c'est pour ça? Normalement, il y a des enfants qui lèvent la main là-haut, ils sont encore là-haut, mais il y a des enfants qui pensent que si on fait une liste et qu'on est bien sage, on a le droit de recevoir son petit cadeau qui était sur la liste. Sinon, c'est père fêtard qui vient. Alors, et pour ceux qui n'ont pas dit que c'était à cause de ça, alors pourquoi les parents, ils achètent les choses qui sont sur la liste? Pour faire plaisir. Pour quelle raison? Ah, j'ai vu, parce qu'ils nous aiment. Ah, voilà, les parents veulent faire plaisir, parce qu'il y a l'amour, parce qu'on est sage. Il y a plein de raisons pour lesquelles apparemment on reçoit des choses qu'on a sur notre liste. Mais est-ce que c'est seulement pour ça qu'on reçoit les choses qu'on a demandées? Parce que moi, j'en connais des enfants qui sont sages, que les parents aiment, et qui ne reçoivent rien sur la liste. Rien du tout. Alors pourquoi alors? Ah, c'est un peu difficile, hein, s'ils demandent un hélicoptère, s'ils demandent plein de choses. Et il paraît, alors, il y en a qui vont dire, mais en fait, ce que tu es en train de dire, Stéphane, c'est que c'est une question de moyens, alors. Si les parents étaient riches, ils offriraient tous aux enfants qui sont sages et qu'ils aiment. Pardon? Entre autres. Pas que, alors. Si nos parents étaient multimilliardaires, est-ce que ça serait normal? Parce que là, on n'a plus de limite. Est-ce que ça serait normal qu'on reçoive les cadeaux qu'on a mis sur notre liste? On a été sages, nos parents nous aiment. Oui? Oui, non, c'est un peu hésitant. Oui, alors qui pense que oui? Si nos parents nous aiment, qu'ils sont riches, qu'on a été sages, alors on va tout recevoir. Tout ce qu'on a demandé. Non. Alors vous dites non. Et en fait, c'est aussi une question que je me suis posée quand j'ai vu mes enfants faire la liste. Parce que parfois, vous savez, il y en a qui pensent à Saint-Nicolas. Puis quand on est un peu plus grand, on se dit, mais peut-être que Saint-Nicolas, il peut pas tout acheter non plus, parce qu'on se rend compte de certaines choses. Alors peut-être qu'on va pas demander trop, parce que les moyens sont limités. Mais s'il n'y avait pas de limite aux moyens, est-ce qu'on pourrait mettre ce qu'on veut? Parce que nos parents nous aiment et qu'on est sages, on reçoit ce qu'on a demandé. Et c'est un peu le problème qu'on a parfois avec Dieu. Parce que Dieu, il est tout-puissant. Dieu, il nous aime. Il peut tout faire. Dieu, il n'est pas limité par de l'argent. Il n'est pas limité par des moyens techniques. Et c'est vrai que quand on réfléchit, on se dit, bah, il n'a pas de limite, Dieu. Si je suis sage, si je suis un bon chrétien et qu'il m'aime, pourquoi il ne fait pas ce que je demande? Je l'ai mis sur ma liste. J'avais envie de réfléchir avec vous ce matin justement sur ce qu'on met sur la liste et ce qu'on reçoit. Et pourquoi des fois, alors que Dieu n'a pas de limite, eh ben, les cadeaux ne viennent pas. Et j'avais envie de parler, on peut parler de plein de choses au sujet de la prière, justement. Et j'avais envie de parler avec vous de ce sujet qui est parfois intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que la théologie de la prospérité. Quelqu'un en a entendu parler ou pas du tout? On va résumer. Il y a certains chrétiens, justement, qui sont adeptes de cette théologie et qui pensent exactement comme ce qu'on vient de dire. C'est si je suis fidèle et parce que Dieu m'aime et qu'il est tout puissant, alors Dieu me bénira. Vous êtes d'accord? Petit malaise, hein? Parce qu'on a reçu des bénédictions, on n'en reçoit pas. Et pourtant, la théologie de la prospérité, elle s'appuie sur deux principes de base. Le premier principe de base, c'est que on reçoit ce qu'on a demandé parce que Dieu l'a dit. Et c'est vrai, ces chrétiens qui y croient, durs comme fer, se basent sur des versets de la Bible. Je vais vous en prendre avec vous. J'en ai pris quatre. Il y en a plein d'autres qui parlent que Dieu réalise les prières. Je vais lire le premier, Matthieu 7. Il est écrit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Premier verset. Deuxième verset, Marc 11, verset 24. « C'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parle, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Jean 14, 13. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » C'est Jésus qui parle. Et c'est vrai, d'ailleurs, on a pris l'habitude. Quand on termine la prière avant le Amen, on dit tous « Au nom de Jésus ». Parce que Jésus l'a dit, si on le demande en son nom, ça va se faire, Jésus interviendra. Et un dernier verset que j'ai pris, sur lequel la théologie de la prospérité s'appuie, 1 Jean 5, les versets 14 à 15, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. » C'est la Bible qui le dit. Et on y croit alors, du coup. Comment ne pas y croire que si Dieu m'aime, qu'il est tout puissant, que je suis un bon chrétien, pourquoi ne réaliserait-il pas les promesses qu'il a dites? J'aimerais un bon travail. Pourquoi pas? J'aimerais être guéri de mes maladies. Aussi. Jésus a dit qu'il le ferait. Et pourtant, si on prend la Bible un peu plus dans son ensemble, c'est vrai qu'il y a des... Dieu dit qu'il réalise les prières. Mais il dit aussi ceci, et j'ai envie de prendre deux versets, vous allez me dire ce que vous en pensez. Luc 13, verset 4. C'est Jésus qui parle aussi. Vous savez, il parle de la tour de Siloé. Vous la connaissez, cette tour, ou pas? C'est une tour qui s'est écroulée. Il y a eu des morts, 18 morts. Et Jésus pose cette question-là. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elle fût plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Et Jésus dit aussi dans un autre chapitre, en Matthieu 5, verset 45, « Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. » Alors moi, je suis un peu perplexe et on s'interroge un petit peu, c'est parfois compliqué de comprendre, mais quand je lis ces deux versets, Jésus réalise toutes les prières qu'on demande en son nom, mais peut-être pas parce que je suis un bon chrétien. Ou que je suis fidèle. Parce qu'il le dit, là. La tour de Siloé, elle est tombée. Il n'y avait personne qui était plus coupable que l'autre. Et pourtant, le malheur est tombé sur tout le monde. Et parfois, on croit qu'on reçoit des bénédictions que parce qu'on est bon. Mais non, Jésus dit, le soleil se lève sur les méchants et sur les bons. Alors, comment comprendre ceci? C'est pas parce que je suis fidèle que Dieu réalise les prières. Je ne crois pas. On va essayer de réfléchir un peu, mais il y a aussi un autre point sur lequel la théologie de la prospérité se base, sur ces versets qu'on a dit avant, mais en effet, il y a un petit malaise parce qu'il y a certains versets qui semblent contradictoires, mais la théologie de la prospérité aussi se base, et quand vous rencontrerez des gens comme ceux qui y croient fermement, je peux comprendre qu'ils y croient, parce qu'il y a des versets qui tendent à y croire, mais il y a peut-être des nuances, il se base aussi beaucoup sur le témoignage. Vous savez, parfois ça arrive... Surtout quand il y a des campagnes d'évangélisation, même dans nos églises adventistes, où on raconte de grands témoignages. Et on crie tous « Amen ». Et on dit « Bien sûr que Dieu peut faire des miracles aujourd'hui, on y croit ». On s'engraine un peu, j'ai envie de dire. Et j'ai envie de prendre un exemple. Je vais prendre le mien et celui de quelqu'un d'autre dans cette église. Quand j'étais étudiant, je devais passer mon baccalauréat en France. Et il y avait une épreuve le samedi, jour de sabbat. Personnellement, ça me posait un problème d'y aller. Alors j'ai décidé de ne pas y aller. Le seul problème, c'est que on me disait, donc mon directeur d'école m'avait prévenu en disant « Attention, quand on a zéro à une épreuve, c'est éliminatoire et on redouble forcément. » L'église a prié. J'ai prié aussi, parce que je me suis dit « J'aimerais bien traverser cette difficulté. » J'ai eu zéro. Mais j'ai eu mon bac avec mention. Amen, hein, on a tous envie de dire amen. Hein. Mais je vais vous raconter une autre histoire. Quelqu'un dans cette église, hein, elle n'est pas là ce matin. Quelqu'un, Pascal la connaît bien. Elle avait des examens le samedi, quand elle était venue étudier en Belgique. Elle est venue, elle a fait « Est-ce que je devrais y aller ?» On a dit « Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est important pour toi ? C'est important pour moi de ne pas y aller. Alors, on va prier. » Puis on a prié. Et vous savez ce qui s'est passé ? Elle a redoublé 3 fois. Pas une fois. 3 fois. Et elle a prié. Alors, elle était plus fidèle ? J'étais plus fidèle qu'elle ? On dit moi amen, là, du coup, hein, quand ça se réalise pas. Et c'est vrai que il y a un petit problème parfois quand on témoigne. Et je pense que ce qui se passe, c'est le problème quand on témoigne, c'est qu'on oublie parfois qu'on est différent, qu'on n'a pas besoin de la même chose. Pourtant, on le dit, il y a des versets dans la Bible qui le disent. Hein. Vous êtes le corps du Christ, chacun son rôle. Et puis, il y a aussi Jésus qui parle de la parabole des talents. Il y en a qui reçoivent 5, d'autres 10, d'autres 20. Et pourtant, quand on témoigne, on est parfois tellement emballé par son expérience personnelle qu'on dit « ce qui m'est arrivé, c'est sûr, ça va t'arriver. On va prier et tu vas voir. » Moi, j'ai pas eu de problème pour mes examens, tu n'en auras pas non plus. Et souvent, vous savez, c'est source de déception. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Je sais pas si vous avez déjà posé la question, mais Jésus, à un moment donné, vous connaissez l'histoire du Jésus guérit un paralytique. Je vais vous lire le passage, il se trouve dans Marc. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient. Enfin, c'est pas paralytique, je confonds, c'est 2 aveugles, pardon. Aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et les yeux s'ouvrirent, miracle. Et Jésus leur fit cette recommandation sévère, pas une petite recommandation. Prenez garde que personne ne le sache. Vous êtes déjà posé la question, pourquoi Jésus demande ça? Il vient de faire un miracle, on devrait dire tous amen et le crier partout. Et Jésus le dit, ne le faites pas. Moi, ce que je crois, parce que j'ai vécu avec Lydie, ça a été une déception qu'elle redouble 3 fois. Une grosse déception. Je comprends pas. Pourquoi toi, Eddie, quand tu pries, ça se passe, tout s'est bien passé, et moi, pas du tout. Est-ce que j'ai quelque chose que Dieu me reproche? Puis on a beaucoup prié aussi, on s'est dit, bah, peut-être qu'on était différents simplement, qu'on n'avait peut-être pas besoin de la même chose. Dans nos témoignages parfois, et c'est parfois ce qui se passe dans nos assemblées, il faut peut-être prendre garde à ne pas faire croire que Dieu veut des choses qui ne sont pas faites pour nous ou pour les autres. Ce qui m'est arrivé à moi ne doit pas forcément être ce qui doit t'arriver à toi. Moi je crois que Jésus est un sauveur universel mais aussi personnel. On n'a pas besoin des mêmes choses. On n'a peut-être pas besoin des mêmes miracles. On n'a peut-être pas besoin de miracles, j'ai envie de dire. Et heureusement aussi que Dieu ne fait pas tout ce qu'on veut, tout ce qu'on demande. Il y a 2 exemples terribles dans la Bible, vous savez, où parfois on demande des choses pas raisonnables. Moi, l'exemple qui m'a plus frappé, c'est pas un simple homme qui demande, c'est 2 apôtres de Jésus. Vous savez, Jésus, ils traversent les villes, ils vont de ville en ville pour évangéliser, pour prêcher la bonne parole, et puis à un moment donné, ça se passe pas bien. Luc 9. Mais on ne le reçut pas. On reçoit pas Jésus et ses apôtres. Parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous fassions descendre le feu du ciel et que cela les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ah non, heureusement que Dieu fait pas tout ce qu'on demande, parce que parfois, c'est vrai qu'on demande des choses pas raisonnables. Parfois aussi, on lit un verset, puis j'aimais bien parce que c'est justement Thierry Lenoir qui avait lu ce verset-là avec un ton différent. Je m'en souviens, il disait ça, il disait « Le Seigneur dit, c'est Jésus qui, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. » On fait « Waouh, qu'est-ce qu'on peut faire avec de la foi ? On peut faire tout. » Puis Jésus dit, ah non, si on lit bien, lui disait, parfois on met le ton, parfois on lit un ton avec une voix extraordinaire, mais peut-être que Jésus a lu avec ce ton-là. Si vous aviez un peu de foi, c'est tout rikiki, vous demanderez peut-être n'importe quoi. Vous demanderez peut-être à cette arme de se déraciner et d'aller dans la mer. Parfois, c'est vrai qu'on demande un peu des petits caprices. Je ne suis pas sûr que ce soit bon pour un arbre d'aller dans la mer. Et je ne suis pas sûr que, et peut-être que quand on demande ce genre de choses, on est peut-être en effet animé d'une toute petite foi. Et puis le problème aussi, c'est que, comme les enfants, quand on demande des choses à Dieu, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, on croit qu'on est plus mûr que les enfants, on a souvent une vision à court terme et de facilité. Moi, je le vois en tout cas, et c'est vrai que je lis la Bible de manière différente depuis que j'ai des enfants. C'est vrai que c'est m'arrivé de dire un peu à Nathan, comme j'ai dit à, comme Dieu nous le dit peut-être, si tu me demandes de l'aide, je t'aiderai. Et c'est vrai que j'ai déjà dit à Nathan, si tu me demandes de l'aide pour tes devoirs, papa viendra t'aider. C'est vrai, papa il t'aime, il sera toujours là pour toi pour t'aider. Et puis vient le premier exposé que Nathan a à faire. Il me dit, voilà, est-ce que tu peux faire ça, papa ? Tu peux le faire mon exposé ? Parce que j'y arrive pas. Et puis je lui dis, bah non, j'ai dit que je t'aiderais, mais je vais pas le faire pour toi. Et vous savez quelle était la réaction de Nathan ? Il a été très déçu, hein, et même un peu en colère. Il s'est dit, bah tu m'as dit que tu m'aiderais, tu veux pas m'aider. Et c'est vrai que parfois on a des demandes un peu comme ça à Dieu aussi, très court-termistes. Non, faut que mon devoir ça fais mon devoir pour moi. Moi, j'ai été plutôt dans une autre optique. Si tu veux, Nathan, je vais t'apprendre comment faire un exposé. Comme ça, plus tard, tu pourras faire tout seul et tu seras content du résultat. Il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de plaintes. Je l'ai aidé quand même. Mais c'était un peu dans la douleur. Il était quand même content de son exposé à la fin. Et c'est vrai que parfois, quand on lit la Bible et qu'on dit que Dieu réalise les prières, qu'on se rend même pas compte qu'on a parfois des demandes parfois inadaptées pour soi, parce qu'on est un peu des caprices, ou que parfois on oublie que les histoires des uns et des autres sont différentes. On oublie quelque chose dans... Et peut-être, je pense que les gens qui sont vraiment adeptes de la théologie de la prospérité, comme quoi Dieu va tout réaliser parce qu'on prie et qu'on est fidèle, avaient oublié la petite nuance qui se trouve. Hein. Quand Jésus dit qu'il réalisera les prières, il y a une petite nuance qui fait peut-être toute la différence. Dans le verset que je vous ai lu tout à l'heure dans 1 Jean 5, Jésus disait « selon sa volonté ». Si tu pries et que c'est selon sa volonté, Jésus réalisera. Et moi, si vous me permettez, j'ai envie de paraphraser, de changer un peu ça selon sa volonté, et j'ai envie de dire que Jésus a peut-être envie de dire pour ton bonheur et ton salut. Parce que je crois que c'est ça la volonté de Dieu. C'est le bonheur de l'homme et son salut. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus normal que de demander à Dieu de l'aider dans sa carrière professionnelle. On a des difficultés. Et c'est vrai que peut-être qu'on a envie de réussir, d'être riche. Je ne sais pas si c'est sa volonté. En tout cas, Jésus lui-même disait qu'il n'est peut-être pas bon d'être riche. Parce que c'est plus dur pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Parce que peut-être que ça nous montre à la tête toutes les richesses qu'on a. Alors je ne sais pas si Jésus doit répondre à cette prière si je lui demande d'être riche, de gagner plein d'argent. Peut-être pas. Parce que peut-être que ce qui intéresse Jésus, sa volonté, c'est que je sois sauvé, pas que je sois riche. Et je vais peut-être vous choquer aussi en disant cela, mais je crois aussi que la prière de spectacle, comme j'ai envie de dire, c'est surtout pour les gens qui ne croient pas en Dieu. Vous savez, quand on demande des miracles, à tout va. Jésus fait ci, Jésus fait ça. Parce que si on parcourt la Bible assez rapidement, vous verrez que les grands miracles que Dieu a réalisés étaient surtout pour des gens qui ne croyaient pas. Si on prend les 10 plaies d'Égypte, c'était pour convaincre le Pharaon. Si on prend les prophètes de Baal et Élie, c'est la même chose. Par contre, ce qui est assez étonnant aussi, Jésus parfois répond prière, mais il dit, par exemple, on prend à Thomas, Thomas qui ne croyait pas que Jésus était ressuscité, il dit, il faut que je le voie. Puis quand il voit Jésus, Thomas, il est content, il s'exclame, mon Seigneur, et Jésus lui répond, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que c'est vrai qu'au premier abord, pour les incrédules, Dieu a dû se manifester et faire des miracles, mais pour les croyants, pour les hommes de foi de la Bible, il était plutôt comment en miracle Jésus et Dieu. Moi, je le trouve un peu avare. On peut prendre des exemples, hein, dans la Bible, vous les connaissez. Jean et Jean-Baptiste, ils se retrouvaient comment, eux? En prison. Pas terrible, hein? Puis il y a Pierre aussi. Pierre, il a terminé comment? Crucifié. Et puis Paul. On a bien cité Paul quand on parle de prière et que pour les hommes de foi. Paul, vous savez, il paraît qu'il avait une maladie à l'œil. Dieu l'a jamais guéri. Ça, c'était déjà une chose. Mais il a terminé comment, Paul? Vous savez? Ah, décapité. Dieu, il est plutôt maigre en miracle pour les hommes de foi, je trouve, parfois, quand on lit. Mais qu'est-ce qu'on lit? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et je crois peut-être que quand on est un homme de foi, quand on croit vraiment que Dieu nous a sauvés, que Dieu peut-être nous adresse ce verset qui est adressé, un verset même plutôt sévère, je trouve, à des pharisiens qui croyaient en Dieu. Car lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison ». Il le dit hein, ici, hein. Quand il s'adresse aux pharisiens, ce qui m'intéresse, c'est que les péchés soient pardonnés. Peut-être que c'est accessoire que le paralytique marche, je ne sais pas. Mais si nous croyons déjà fermement que nous sommes sauvés, et si nous avons l'assurance du salut, avons-nous vraiment besoin des prières extra? C'est dérangeant comme question. Parce qu'on, des fois, on a besoin de miracles, ça va pas. Et peut-être qu'un autre verset que Jésus dit s'adresse à nous. Vous savez, à un moment donné, il y a des scribes. Je vais vous lire ce verset dans la Bible. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. C'est des gens qui croient, hein, des pharisiens. On veut que tu fasses un miracle, là, Jésus. On en a besoin. On a besoin que tu te révèles un peu. Fais-nous un miracle, et on croira à Jésus, que tu es puissant. Et qu'est-ce qu'il répond, Jésus? Sévère, hein, très sévère. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Vous connaissez l'histoire, hein? Jonas, 3 jours dans le poisson. Il faisait affaire à ça. Puis après, il sort du poisson. C'est une référence à la résurrection. Jésus dit, ben, pour tous ceux qui ont besoin d'un miracle et qui croient, le miracle, c'est ma résurrection. Vous avez besoin de rien d'autre. Pourquoi vous demandez d'autres miracles? Si vous croyez fermement que je veux vous sauver et que vous êtes sauvés, c'est ça qui compte. Pas besoin de miracles. Et c'est frustrant, parfois, non? Se dire, moi, je suis un homme de foi, et Jésus me répond, mais tu es déjà sauvé, tu n'as pas besoin de ça. Et je pense que Jean-Baptiste, Pierre, Paul ont eu des moments de frustration. Et j'aime bien quand on parle de prières non exaucées pour des hommes de foi, j'aime bien aussi parler de Moïse qu'on oublie parfois. Moïse. L'histoire de Moïse. Vous savez, il était dans le désert, tranquillement. Puis Dieu l'appelle pour sortir le peuple d'Israël en Égypte pour l'amener à la terre promise. Moïse n'a pas très envie au début. Il y va quand même. C'est un peu compliqué avec Pharaon, il y a tous les miracles qu'il faut. Puis après, il se retrouve 40 ans dans le désert. Une grosse partie de sa vie, toute la quête de sa vie principale, c'est d'amener les Israélites à la terre promise. Et qu'est-ce qui se passe? Il frappe deux fois sur le bâton, sur la pierre avec son bâton. Et Dieu le punit et lui dit « Tu ne rentreras pas dans le pays de Canaan. » 50 ans qu'il a passé, hein, Moïse, hein, à faire tout ça. Et je ne sais pas si vous vous rappelez comment est Moïse avec Dieu. Vous savez, Moïse, il a cette chance, il parle directement à Dieu. Et en général, quand il parle avec Dieu, c'est souvent pour argumenter. Vous vous souvenez, devant le buisson ardent, il dit « Je ne sais pas parler, il ne faut pas que j'y aille. » Puis il y a aussi une autre fois où il argumente aussi avec Dieu, avec l'épisode du veau d'or. Il dit « Non, ne fais pas ça à Dieu, s'il te plaît. » Et même si ce n'est pas raconté dans la Bible, j'aime me prêter à imaginer que quand Dieu lui dit « Tu n'iras pas à Canaan », Moïse, il est frustré. Moi, je pense qu'il a argumenté avec Dieu. Je crois, c'est pas dit. Hein. Il dit, j'attends qu'il lui a dit peut-être, Dieu, s'il te plaît, je regrette. Tu sais bien, je regrettais, c'était sur l'emportement. S'il te plaît, laisse-moi rentrer, je suis fidèle. Tu m'aimes. Laisse-moi rentrer au pays de Canaan. Ça fait 50 ans que je cherche que ça avec le peuple. Et il n'est pas rentré. Il est mort, sans rentrer dans le pays de Canaan. Pas de prière exaucée pour Moïse. Homme de foi aussi. Alors, c'est un sujet de débat pour certains théologiens, mais certains pensent que l'histoire de Moïse s'est pas arrêtée là. Parce que vous savez que Moïse, on ne sait pas où était son corps. Personne ne l'a trouvé. Certains pensent que Moïse a été ressuscité. Et d'ailleurs, il le confirme, c'est ce qu'il pense aussi, parce que au moment de l'épisode de la Transfiguration, Élie et Moïse apparaissent à Jésus. Certains, donc beaucoup de chrétiens, pas tous, hein, faut l'admettre, pensent que Moïse a été ressuscité. Et moi, je crois que si c'est vrai, il a peut-être pas vu le pays de Canada, mais là, je crois qu'en ce moment, il voit la vraie terre promise. C'est vrai que parfois, on a une vision court-termiste, et dans les moments de la vie, les miracles ne viennent pas. Mais au bout, Jésus, ce qu'il veut, c'est notre salut. Et peut-être que Moïse s'en est pas rendu compte quand il argumentait avec Dieu, mais sa prière a été exaucée. S'il la voit pas maintenant, parce que c'est un sujet de débat, il la verra plus tard, la vraie terre promise. Et il y rentrera. Alors je dis tout ça, parce que je suis en train de décourager les gens de prier. Parce que les prières ne sont pas exaucées quand on a un homme de foi. Parce que si la théologie de la prospérité est fausse ou partiellement fausse, parce que c'est pas parce qu'on est fidèle, parce que Dieu nous aime et qu'on demande au nom de Jésus que tout se fera, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas prier? Et puis en plus, il y a des versets, vous savez, dans la Bible qui dit que Dieu sait tout déjà. Alors pourquoi prier? Ça sert à quoi? Parce que c'est vrai, quand on lit ces deux versets, « Avant qu'ils invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. » Ésaïe 65. Et dans Matthieu 6, « En priant, ne multipliez pas les vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de répéter, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. » Alors quand on croit, on ne prie plus. Ça sert à rien. De toute manière, Dieu nous a sauvés, il n'y a plus besoin de prier. J'irai pas jusque-là. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de versets qui nous invitent à prier, justement. Vous savez, les versets, vous les connaissez, j'en ai pris deux. 1 Thessaloniciens 5, priez sans cesse. Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mais si Dieu sait tout, pourquoi prier? Je comprends pas. Je dois lui adresser mes demandes, mais il sait déjà ce dont j'ai besoin. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Et Jésus, est-ce qu'il priait? Beaucoup. Il a particulièrement prié avant d'aller sur la croix. Et cette prière est connue, vous la connaissez. On la trouve dans tous les évangiles. Et Jésus s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. « Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Pourquoi Jésus prie? Moi, je crois que c'était dur pour lui d'aller à la croix. Je crois aussi que des chrétiens fidèles, aimants, traversent des épreuves. Et je crois que Jésus nous montre qu'il faut prier, et même si, parce que dans l'épreuve, on peut, et dans la prière, je pense qu'on peut trouver la force, non pas de gommer les épreuves, mais de les surmonter. On l'a vu hein, dans la Bible, hein, je pense que les hommes de foi n'ont pas eu beaucoup de miracles personnels hein, réalisés pour leur faciliter la vie. Mais ils sont toujours allés de l'avant grâce à Dieu. Et je pense particulièrement Jésus à ce moment-là. Il a peur, il n'a pas envie, il sait qu'il va souffrir, mais il sait que c'est pour une bonne chose, pour le salut des hommes. Et je vous rappelle, hein, ce que veut Jésus, la volonté de Jésus, c'est mon salut, ton salut, notre salut à tous. Et je pense aussi que c'est important de prier, et que Dieu nous invite à prier, parce que c'est aussi un moyen parfois d'ouvrir les yeux, la prière. Ça ne transforme pas Dieu. Dieu, il sait déjà ce qu'il faut faire. Alors la prière est peut-être pour nous. La prière est peut-être pour que nous, on ouvre les yeux, pour qu'on puisse réfléchir et pour que Dieu nous fasse participer à son projet de salut. C'est vrai que Nathan est venu me dire « Voilà l'exposé, j'en ai besoin. » Je me suis dit « Non, on va le faire ensemble. » C'est pénible parfois, mais c'est ensemble que Dieu veut réaliser son projet. Et je crois que par la prière, on peut ouvrir les yeux dessus. Et en ces débuts d'année, vous savez qu'on a l'habitude de dire la bonne année, de se faire des vœux, des souhaits. J'ai envie de dire même des prières pour les autres. En général, elles s'adressent aux autres. Hein. Je te souhaite du bonheur, je te souhaite ci. Et je pense que c'est une bonne habitude. Parce que je crois que nous, qui sommes sauvés, quand on prie, on doit d'abord prier pour les autres. Pour participer au plan de Dieu. C'est frustrant, c'est vrai, parfois on aimerait que quelque chose se réalise pour nous, mais on est sauvés. Prions pour les autres. Je pense que c'est une bonne habitude de faire des vœux en ce début d'année pour les autres. Dieu nous invite, je pense, à d'abord prier pour les autres. Et prions pour que la force de Dieu aide ceux qui souffrent à traverser les épreuves. Prions pour que Dieu se révèle par un miracle ou simplement dans les cœurs. Pour ceux qui doutent et ceux qui cherchent. Prions que Dieu, parce que c'est ce qu'il veut en premier, transforme déjà les cœurs pour que les gens aient un avant-goût de la future terre, en vivant l'amour. Et surtout, prions pour que Dieu nous aide à participer activement au salut et au bonheur des autres. Je crois que c'est la prière que Dieu nous invite à faire tous en ce début d'année, avec ses vœux. Je suis sauvé, Seigneur. Aide-moi à participer à ton projet. Aide-moi à aider les autres. Et pour tous ceux qui traversent ces épreuves et qui ont besoin d'être bénis, ici, parce que je sais qu'il y en a, parce qu'on va tous prier les uns pour les autres, et l'assurance que des gens prient pour vous. C'est ma prière ce matin, qu'on puisse tous prier les uns pour les autres. On est déjà sauvés, mais les autres en ont besoin. Amen.